appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Très heureux de vous retrouver dans ce programme que vous propose Radio Capi, la fréquence de la paix. Aujourd'hui, les débats sur Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen, c'est autour de la décision de la justice internationale en faveur de la RDC contre l'Ouganda. La Cour internationale de justice CIJ a, la semaine dernière, fixé à 325 millions de dollars la réparation à la République démocratique du Congo par l'Ouganda au titre de l'invasion de l'Est lors de la guerre de 1998 à 2003. Selon plusieurs observateurs, les chiffres de 11 milliards avancés avant a été sensiblement minoré. Alors comment est-ce qu'on est arrivé, on en est arrivé là, et que va-t-il arriver si l'Ouganda refusait de payer? Selon vous, quelles doivent être les mesures de coercition? Si vous désirez participer à ces débats, composez les 081 890 49 69. Aussi, faites-nous parvenir vos commentaires sur notre page Facebook ou encore sur www.radiocapi.net. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Jean-Claude Siala et Vanessa Kongolo concourent à la production et la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Angie. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le réel plaisir d'accueillir dans ces studios professeur Tshibangu Kalala, qui est analyste et acteur politique. Il est avec nous. Bonjour professeur.
Bonjour J.R. Lungembo.
Est-ce que la RDC a des raisons de pouvoir se dire satisfaite de la décision de la Cour des justices internationales?
Merci, Gérard Lungembo. Je vous remercie d'abord pour l'invitation.
Malgré votre état.
Bon, ça va passer. Pour animer cette émission avec vous, et parler de l'affaire, de ce procès historique, vous dites si il y a des raisons d'être content. Je suis dans la colère de notre, nous entendons tous les réactions de notre population qui est en colère, qui exprime une certaine déception, une frustration. Je partage la même frustration, la même colère de notre peuple. La RDC ne mérite pas ce que la Cour lui a donné. On aurait pu avoir beaucoup plus. Très concrètement, vous demandez 100 dollars, mais on vous donne 3 dollars. Vous demandez 1000 dollars, on vous donne 30. Et donc par rapport au montant que la RDC a réclamé pour la réparation de tous les préjudices subis, plus de 11 milliards, mais on lui donne 325 millions, c'est 3%.
Mais c'était quand même une démarche périlleuse pour qu'on arrive là, parce que tout est parti depuis Musée Laurent Désiré Kabila, lorsque le procès a été ouvert en 99. Et comment, en 2005, on l'avait déjà condamné, et 10 ans après, finalement, il n'y avait que des négociations.
Donc cet échec, pour moi, il n'y a pas de raison de pavoiser, de crier victoire, il n'y a pas de victoire. C'est une déception. C'est un échec. Comment on en est arrivé là? Qui sont responsables de cet échec? Je vais dire un mot là-dessus. Le procès a commencé en 1999, il y a plus de 23 ans, par Moïse Kabila, qui a attaqué en justice le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, qui avaient occupé notre territoire à l'époque. Les deux autres pays ont échappé, pour en parler un jour, mais on a coincé l'Ouganda. On a fait le procès depuis cette époque et on a gagné le procès en 2005, le 19 décembre 2005. Une belle victoire judiciaire.
2005, donc c'est-à-dire 6 ans après.
Oui, on a fait le procès. On a gagné le procès. C'était une belle victoire. L'arrêt rendu par la Cour à cette date-là, décembre, elle dit trois choses. L'Ouganda Donc son armée qui était sur notre territoire a tué des Congolais, a blessé des Congolais, a torturé des Congolais, etc. L'Ouganda doit payer de l'argent
à la RDC
pour ça. Première chose. Deuxième chose, l'Ouganda a pillé les richesses naturelles de la RDC. Pillage, exploitation illicite. C'est établi. L'Ouganda doit payer de l'argent à la RDC pour ça. Troisième chose, l'Ouganda a détruit des biens, des immeubles, des écoles, des hôpitaux, des biens publics et privés. L'Ouganda doit payer de l'argent à la RDC pour ça. Donc, il n'y a plus de débat.
Donc, nous sommes en 2005. La condamnation.
C'est fini, on a gagné. La victoire, il n'y a plus de problème. Mais qu'est-ce que la Cour a dit? Parce que nous étions là. La Cour a dit.
Rappelons qu'à notre demande. Vous étiez parmi les avocats.
Mais bien sûr, c'est donc je connais les choses. Et c'est nous qui avons demandé à la Cour. Demandé à la Cour en disant. Le gouvernement congolais ne contrôle pas encore le territoire. Rappelez-vous, on est sous le régime 1 plus 4. Il y avait le RCD avec son morceau, le MLC, son morceau. Et donc, le gouvernement ne contrôle pas encore le territoire. On ne peut pas aller maintenant évaluer les dommages. Donc, nous avons demandé, nous-mêmes, à la Cour, de faire une condamnation de principe. Et la Cour nous a suivi, a dit oui, c'est très bien, vous avez raison. Je condamne l'Ouganda à payer de l'argent à la RDC, mais allez discuter. RDC et Ouganda, discutez pour fixer vous-même le montant des dommages et intérêts. Si vous ne vous mettez pas d'accord,
revenez
à la Cour, moi-même, Cour, je vais fixer ces montants-là. Nous sommes en 2005. J'ai Lungembo. Pendant 10 ans, il n'y a pas eu de volonté politique du côté du gouvernement congolais de régler le problème, de négocier avec l'Ouganda pour soit se mettre d'accord sur le montant, soit être en désaccord et aller à la Cour pendant 10 ans. C'est du jamais vu.
Mais semble-t-il qu'il y avait, l'Ouganda exigeait à la RDC de présenter des bases factuelles de préjudice.
Oui, mais en 2000, comment moi je suis entré dans le dossier, c'est ça. Vous ne pouvez pas aller en justice contre un État ou contre un adversaire si vous n'avez pas des preuves. Il faut avoir un dossier en béton. En 2001, au mois de juillet, j'étais pris dans le dossier en 2001. Il y avait deux assistants de l'université de Bruxelles qui étaient là avant moi dans le dossier. Ils ont écrit au gouvernement. J'ai la lettre dans mon dossier, je l'ai aujourd'hui, cette lettre-là. Ils disent au gouvernement, l'affaire contre l'Ouganda est perdue, nous allons perdre le procès. Il faut oublier.
En 2001 déjà.
Nous sommes en 2001, j'ai la lettre. Pourquoi? Parce que tous les documents, toutes les preuves que le gouvernement, à l'époque, avait déposées à la Cour, avec les arguments, etc., pour montrer la culpabilité ou la responsabilité de l'Ouganda, l'Ouganda marchait là-dedans, il a tout nettoyé, tout rejeté. Et c'était la panique à l'époque.
Malgré un document volumineux.
On a fait des trucs de presque 2000 pages avec des livres
blancs. C'était le cabinet Tumbalo là-bas.
Oui, bon. C'était un peu avec des livres blancs, avec des coupures de presse et des journaux. Mais en droit, vous ne pouvez pas. Ça, ce ne sont pas les preuves. Chaque fois, l'Ouganda disait, mais oui, vous dites que les militaires ougandais étaient là. Est-ce que vous avez la preuve? Vous les avez vus à Kinshasa, lors du coup d'État manqué, etc. Bon. C'est en ce moment-là que j'entre dans le dossier. Parce que la défaite était annoncée. Il fallait maintenant remonter le dossier, avoir des preuves, construire ce que les juristes nous appelons la base factuelle du procès. Il faut avoir des preuves pour asseoir la culpabilité ou la responsabilité de l'Ouganda. Ça n'avait pas été fait de manière professionnelle. Je suis entré dans le dossier en ce moment-là.
2001,
au mois de juillet. J'ai dit au gouvernement, le ministre à l'époque, j'ai dit, mais ça c'est un procès, c'est la guerre. Ce sont des dommages de guerre. Donc ce sont les militaires qui peuvent nous donner les preuves parce qu'ils étaient sur le terrain, qui ont affronté les soldats ougandais. J'ai le Gembo, on a créé une commission militaire pour moi seul à la DEMIAP pendant un mois.
Assistance et vous apportez des preuves.
Pendant un mois, on a siégé. J'avais une commission militaire dirigée par le général, peut-être-major, général Kayemba Bandakourou, qui est mort entre temps, je salue sa mémoire. Les généraux, les colonels, les officiers, tous ceux qui avaient fait la guerre contre le Ouganda ont défilé devant moi. Pendant un mois, ils m'ont raconté la guerre. Donc j'ai remonté, j'ai reconstitué les pièces. Ils m'ont dit partout où on s'est battu contre les Ougandais. Où est-ce qu'il y a eu des morts? Où est-ce qu'il s'est passé? J'ai tout noté. J'ai rempli des carnets de preuves, etc. Et je suis parti à Bruxelles. Quand les amis m'ont vu avec les preuves que j'ai ramassées, que j'ai rassemblées, ils m'ont embrassé. Ils m'ont dit, Kalala, c'est terminé.
Malgré maintenant, le procès perdu en 2001, pardon, en 99,
oui,
faute
oui.
de preuves.
Oui, parce qu'il n'y avait pas de preuves.
En 2005.
Oui, donc j'ai retrouvé ce dossier et c'est ce qui nous a permis de gagner le procès contre l'Ouganda. En 2005. Parce qu'on avait des preuves de la responsabilité de l'Ouganda. Maintenant, après qu'on ait gagné, il fallait...
Négocier maintenant.
Il faut négocier avec...
L'indemnité.
Mais on ne peut pas négocier pendant 10 ans, Jean Kimbo. Ça, c'est une catastrophe. C'est jamais
pourquoi
vu.
On est arrivé à une négociation très longue.
Oui, mais c'est le demandeur qui doit prendre l'initiative.
Donc la RDC,
c'est la partie du gouvernement de l'époque. Le régime PPRD qui était là à l'époque. C'est-à-dire qu'il devait prendre la responsabilité, monter la volonté de régler le problème le plus vite possible.
Ça veut dire que la RDC renvoyait les plaidoiries à chaque fois que c'était possible.
Oui, oui. Alors, nous arrivons en 2010. C'est en ce moment-là, j'ai travaillé avec le ministre Mutombo Bakafasende, qui est le ministre à l'époque. J'ai dit, on ne peut pas aller voir les Ougandais mains vides.
Il faut
que nous puissions maintenant construire la base factuelle des dommages que nous avons suivis. Et évaluer nous-mêmes ces dommages sur base des preuves que nous allons voir et aller remettre le dossier à l'Ouganda.
Et vous l'avez évalué à combien?
Bon, à l'époque, on a consulté même des experts belges qui nous ont aidés à construire des modèles mathématiques.
Des experts comptables, vous voulez dire?
Oui, parce que là, ça, c'était des universitaires. C'était des universitaires. Et puis, c'est vrai, cette phase-là...
C'était plus une question des droits. Parce que l'Ouganda était déjà condamné.
Oui, c'est déjà condamné.
Pour évaluer les
préjudices. Fini, c'est le préjudice. Donc, on arrive chez Joël Lungembo, on dit, monsieur Lungembo, vous dites qu'on a détruit votre maison, on a pillé, etc. Qu'est-ce qu'il y avait dans la maison? Oui, il y avait la télévision, un téléviseur, il y avait un frigo, j'avais une voiture qui a été détruite. C'est quelle voiture, quelle marque, ça coûte combien? Ça, c'est un travail de comptabilité. C'est le plus du droit en ce moment-là. Parce que la condamnation était déjà faite. C'est là où il y a eu un problème.
Vous avez évalué à combien?
23 milliards.
23 milliards.
Évaluation. Bon.
Réaction de l'Ouganda.
L'Ouganda nous dit, nous partons en 2010 pour remettre ce dossier avec des preuves, avec des dégâts, etc. L'Ouganda répond, nous partons en 2010. Avec le ministre de Zolo et Tambwe Mwamba qui étaient aux affaires étrangères. J'avais le rapport avec moi comme chef d'équipe. Je remets le rapport. Chose. Ils disent, oui, mais ça c'est trop cher, ça. Et sinon, on va vous vendre. Vous prenez carrément tout l'Ouganda. Ce sont des humoristes, si vous le connaissez. Bon, donnez-nous le temps. On va lire pour voir, pour préparer notre réponse. Mais, je n'ai pas. Ça traînait. Il n'y avait pas de volonté du côté du gouvernement. 2010, rien n'a été fait. 2011, 2012, 2013, on traînait les choses en longueur. Aucune pression de la part de la victime. C'est la RDC qui devait pousser. Il n'y avait pas de volonté d'aller de l'avant. Et nous arrivons en 2015. C'est en ce moment-là que tout change. Eh bien, le gouvernement dit en ce moment-là, oui, ben maintenant on peut aller à la cour parce que le montant que l'Ouganda propose n'est pas suffisant. Bon, mais qu'est-ce qui arrive? J'ai Lungembo. Comment voulez-vous que ce monsieur Tambwe Mwamba, un pro-ougandais, les images sont là, il était dans des camps militaires, dans les entraînements, on l'a vu en tenue militaire.
À l'époque de
RCD. Du MLC, il était dans le MLC. En tenue militaire, en brousse, dans les camps d'entraînement, avec les officiers ougandais. Il était rebelle, en armes contre le pays. Il est venu à Kinshasa, dans les bagages de pro-ougandais, du MLC, nommé ministre du plan dans le gouvernement, le premier gouvernement. Un régime 1 plus 4, comme vous savez. Et donc, vous avez celui qui était avec les bourreaux, qui se retrouve maintenant du côté congolais, pour être défenseur des victimes. Mais les Ougandais se moquaient de nous. Ils disent, mais ça, c'est quel peuple, c'est quel gouvernement, c'est quel État, ça? Mais tant bon, nous étions avec lui, il est du côté des bourreaux. Nous avons fait la guerre avec lui contre son propre pays. Comment il se retrouve aujourd'hui du côté vite pour nous demander à nous, à ce que nous puissions payer. Mais les dégâts, nous avons causé ces dégâts avec lui. Voyez-vous. Mais ça ne fait pas sûr. Aucune éthique, aucun sens de la morale, aucune éthique professionnelle, aucun sens de dignité, même de pudeur. Et comment voulez-vous, dans ces conditions-là, que vous puissiez faire des miracles?
Donc, en 2015,
on confie le dossier.
C'est également impossible de pouvoir arracher de l'Ouganda ces montants-là.
Mais qui négocie avec l'Ouganda? Qui négocie avec l'Ouganda? Qui a le dossier en 2014-2015?
Alors,
un pro-Ouganda. Et donc, vous ne pouviez pas, dans ces conditions-là, vous attendre à des miracles. Le dossier a été abîmé par le régime PPRD, le régime sortant. C'est ce régime qui a abîmé le dossier. On ne peut pas décocher pendant 10 ans pour fixer un montant. Et pendant ces 10 ans, mais les preuves disparaissent, les traces, etc.
Est-ce que l'RDC était incapable d'apporter, c'est pas possible, au cours de plaidoirie, des preuves pour que finalement l'Ouganda puisse se plier?
J'ai,
est-ce qu'il y a eu de plaidoirie?
J'ai lu l'arrêt de la Cour. Il est sur le site. Pour les auditeurs de Radio Okapi, la Cour internationale de justice, c'est l'ONU. C'est un organe de l'ONU, c'est comme le Conseil de sécurité, c'est comme l'Assemblée générale. Donc c'est l'ONU. L'arrêt est là. Je l'ai lu. 110-76 pages. De bout en bout. Eh bien, c'était un dossier de preuve. On a déjà condamné l'Ouganda, il n'y a plus de discussion. Vous avez connu combien de dégâts? Il faut les évaluer. Amener des preuves. Quand vous lisez l'arrêt de bout en bout, le dernier.
Le tout dernier, fixant le montant de 325 millions.
Pour les auteurs de Radio Capi, je leur donne deux clés. Il faut deux clés qui vous permettent d'ouvrir
l'arrêt des motifs.
Il y a deux clés. La première clé qui permet d'ouvrir ce jugement, pour le comprendre, c'est l'arrêt de 2005. C'est la première clé. La deuxième clé se trouve au paragraphe 106 de l'arrêt. Et donc, le juge, la cour, a manipulé ces deux clés pour trancher l'affaire. De bout en bout, la cour démontre très clairement que les preuves déposées par la RDC pour prouver les préjudices et l'évaluation, ce n'est pas sérieux. Je dirais, pour parler de langage, c'est du n'importe quoi. Voyant la faiblesse du dossier de la RDC, la Cour est allée plus loin. La Cour a même désigné des experts indépendants, d'elle-même, pour dire, bon, allez regarder cette affaire de dégâts, des dommages, il faut nous éclairer. Les experts...
sont venus au Congo?
Non. Je ne sais pas comment ils ont travaillé, mais c'est des Européens. Ils sont là, ils sont quatre. Et parmi la quatre, il y a même un expert comptable. Je vois que vous aimez les experts comptables. Il y a même un quatre qui ont fait des rapports. Chacun a fait son rapport sur les biens, sur les pillages, etc. Et malgré cela, la Cour constate que il y a des éléments par-ci, par-là, mais ce n'est pas solide. Pas solide. Et qu'est-ce que la Cour dit pour trancher l'affaire? Et répète à plusieurs reprises ce qu'elle avait dit au paragraphe 106 de l'arrêt. Il dit, bon, mais déjà en 2005, moi, Cour, j'avais déjà dit que l'Ouganda a tué, a violé, a pillé, etc.
A détruit,
etc. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais dire que l'Ouganda ne peut rien payer à la RDC parce que les preuves déposées par les c'est pas solide. Et donc la Cour ne pouvait pas se déjuger, ne pouvait pas se dédire. C'est pourquoi elle a dit, bon, même si, compte tenu de cette affaire, même si les preuves ne sont pas très solides, ne sont pas très convaincantes, etc., mais cela ne peut pas m'empêcher de décider quand même sur une base forfaitaire. La Cour dit, oui, somme globale. Faites que nous sommes globales. Pourtant forfaitaire, en tenant compte quand même aussi de l'équité et du sens de la justice. Les preuves, oui, mais c'est pas convaincant, c'est pas solide. Mais je ne peux pas, à partir de là, parce que, bon, il y a quelques éléments par-ci, par-là, même si c'est pas du solide, c'est pas très sérieux, mais aussi il y a un problème d'équité. Parce que tout de même, j'avais déjà dit en 2005 que l'Ouganda a pillé, l'Ouganda a tué, l'Ouganda a détruit. Il fallait que l'Ouganda paye de l'argent à la RDC. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui...
C'est comme ça que nous sommes arrivés au montant de 325 millions.
Alors, en résumé, c'est un montant forfaitaire. J'ai long et beau.
Alors, laissez-moi ouvrir le standard, professeur.
C'est forfaitaire, mais c'est quel ordre-là?
C'est 1 à 3 ou 3...
On a réclamé le montant plus 100%, 100%,
on vous donne 3%.
On vous donne 3%. Vous réclamez 1000 dollars, on vous donne 30. Vous demandez 100 dollars, on vous donne 3 dollars.
Ça ne représente rien.
Et donc, on ne peut pas.
On va voir qu'est-ce que.
C'est pas vanné, ça va servir à quoi. Gagner. C'est ridicule.
On verra tout au long de cette émission à quoi servira cet argent et quels sont les quelques ratés des épisodes, depuis, pour qu'on arrive à 325 millions de dollars. Et nous sommes partis de 23 milliards, parce qu'aujourd'hui, les montants qu'on avance, c'est 11 milliards, mais vous retracez l'histoire et l'historique pour nous dire que nous sommes partis de 23 milliards, 11 milliards, et aujourd'hui, on fixe à 325 millions. 0,81. 1-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Radio Capi fête ses 20 ans d'existence les vendredis 25 février 2022 à la Halle de la Gombe avec ses auditeurs.
Déjà qu'elle est au service de la paix en RDC, la radio Okapi fête ses 20 ans d'existence le vendredi 25 février 2022 à la Halle de la Gombe avec ses auditeurs. Écoliers, universitaires, fonctionnaires et habitants de Kinshasa, venez suivre en direct les émissions Okapi Service, Dialogue entre Congolais et Parole aux auditeurs.
Des moments d'échange avec des journalistes, animateurs et techniciens de la radio de la paix vont marquer cette journée.
Également au programme, des projections photos et vidéos sur le travail de la radio Okapi. Un concert musical avec les artistes de renommée nationale et internationale.
Ça s'est fait les vendredis 25 février 2022 à la Halle de la Gombe.
Okapi pour la paix, Okapi pour la sécurité, Okapi pour le développement national, Okapi pour toujours. Parole aux auditeurs.
Voilà, nous ouvrons le standard avec vous, Christian. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Christian. Christian Politassi, vous êtes avec nous? Voilà, on prend Jérémy de Lubumbashi. Jérémy, vous êtes avec nous?
Oui, allô? Bonjour, monsieur Gilles. Bonjour.
Oui, Jérémy, vous avez la parole. Oui. Quel est votre avis?
En tout cas, nous disons que l'année de la constitutionnelle, n'est-ce pas, était vraiment un moment inopportun, parce que bien que salutaire pour... notre pays, même si elle augure l'insuffisance face bien évidemment au barème attendu, au prorata bien évidemment des faits commis. Alors moi je me dis en tout cas ça fait froid et j'ai de la démangeaison d'entendre les récits du professeur. Et je me dis vraiment l'ennemi d'une de notre pays c'est les Congolais lui-même. Alors moi je me dis vous pouvez comprendre comment, à quel niveau la Cour aussi n'a pas été vraiment très clairvoyante dans ces dossiers. Comment voulez-vous, selon les récits de l'éminent professeur, imaginez-vous de 1999 jusqu'à ce jour, cela fait au moins 23 ans. Et partir de 23 milliards, on arrive à 325 millions. Et je me dis, mais ça c'est une moquerie vis-à-vis de notre pays. Comment est-ce que les éminents juristes soient-ils devant un procès de grande envergure comme celui-là et présenté à notre pays avec tout ce qu'il y a eu comme exactions et autres et crimes, présenter cette somme, ça c'est vraiment inacceptable au jour d'aujourd'hui. Moi je me dis à ce stade, il fallait que s'il y a recours, notre pays faire appel pour que réellement le peuple congolais entre dans leurs droits. Et ça, c'est un fait. De deux, même si nous sommes aussi mal habitués, nos politiques congolais, ou nos politiques d'une manière générale, même s'il y a réparation, est-ce que réellement les victimes vont-elles entrer en possession de cette réparation? Ça, c'est un grand point d'interrogation qui reste. Et moi, je me dis, ça arrive à quel moment, dans un contexte autre, parce que l'Ouganda, comme la RDC, forme une mutualisation de force. Mais comment on peut gérer ces dossiers? Vous savez, c'est comme quand vous aviez votre ennemi d'hier, qui est aujourd'hui ami. Votre ami, on vient vous
ça
dire, voilà,
compliqué parce qu'il risque de vous présenter une facture.
Il y a eu un passé, il y a eu ceci. Comment vous pouvez vous y prendre devant celui qui a été hier votre ennemi, qui aujourd'hui est en train de pactiser?
Merci beaucoup, Jérémy. Alors Jérémy, on ne saura pas parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont intervenir. Je comprends que vous demandez à ce que la RDC puisse aller à l'appel. Et aujourd'hui, vous vous posez également la question, à quoi consisterait réellement la réparation? Est-ce que ça consisterait à indemniser ceux qui sont réellement victimes? On verra, parce que dans
dans un contexte où les ennemis d'hier sont devenus des amis, alors ça complique un peu les choses. Merci beaucoup, Jérémy. Christian, vous êtes à Kinshasa, je crois que la ligne s'est établie. Christian, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour Jérémy, bonjour à l'invité.
Après avoir écouté notre invité, quelle est votre réaction?
Déjà, il faudrait dire que cette affaire a fait couler Angre et Saline. Et aujourd'hui, ça continue à défrayer la chronique, étant donné que l'indemnisation ne reflète pas les dégâts subis par la RDC. Alors, à la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là, eh bien, vous avez vu les preuves, il s'est passé, les preuves ont été battues. Et donc, sur base de ça, la Cour n'a pas pu tabler sur base de manière clairvoyante. Mais au-delà de ça, il y a encore cette question sur la réparation, Gérard Gimbo. Est-ce que l'Ouganda va facilement réparer ou qu'on sorte? Bon, l'article 94, c'est la base de matière. Et l'article 94.1 et 0.2 du charte de la Charte des Nations Unies est clair quant à ça. Les conseils de sécurité a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire pour pouvoir peser afin que les décisions de la Cour soient exécutées. Mais cependant, ce pouvoir discrétionnaire rencontre une certaine opposition face à ce qu'on appelle les droits de veto. Et donc, si un État membre brandit les droits de veto, automatiquement, les conseils de sécurité sera dans une difficulté pour pouvoir faire exécuter la décision de la CIJ. Ce qui fait qu'ici, il faudrait maintenant activer l'aspect diplomatique. Et c'est de cette manière, avec les cabinets de lobbying, que nous pouvons, tant soit peu, arriver à recouvrir ce qui nous revient. Et voilà, j'ai un Mugimbo, de cette manière que nous avions essayé un tout petit peu d'analyser cette question de l'arrêt de la Cour.
Merci beaucoup, Christian, d'avoir appelé de Kinshasa. Alors, Dieudonné, vous êtes à Kisangani. Vous aviez sûrement, peut-être à cette époque-là, assisté à cette guerre de 6 jours qu'on avait appelée en 98. Nous sommes là en 98. Alors, quelle est votre réaction, Dieudonné? Dieudonné, vous êtes avec nous? Voilà, l'attendant qu'on retrouve Dieudonné. Sylvain, vous êtes à Bounia. Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Sylvain, vous êtes à Ituri.
Oui, merci pour m'avoir associé à cet échange. Aujourd'hui, si nous discutons autour de cette question de la réclamation de l'indemnisation de l'Ouganda par rapport à tout ce que la RDC a subi, c'est parce qu'il faut reconnaître 3 à 5 faits. La première des choses, la présence de l'armée ougandaise en RDC a eu des impacts très négatifs sur la biodiversité congolaise. Il y a eu déforestation. Et sur ce plan, vous savez que au niveau mondial, il y a des biens qui deviennent aujourd'hui des biens de tout le monde. L'Ouganda a détruit les forêts congolaises, ça il faut le savoir, et les bois ont été illégalement exploités par l'Ouganda. Il y a eu des structures très 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 capables qui ont fait des analyses en matière de la valorisation de cette déforestation menée par l'Ouganda à travers son armée qui était chez nous. À part ce fait, il faut dire qu'il y a eu des Congolais qui sont morts. Il y a eu des Congolaises qui étaient violées. Et vous savez aussi, les ressources naturelles, telles que l'or, exploitées.
Oui, Sylvain, la Cour a reconnu tous ces faits, a dit que l'Ouganda doit payer, là nous sommes en 2005, doit payer à la RDC l'argent, au prorata de ce que les préjudices qui ont été causés. Parce qu'il a reconnu que l'Ouganda avait pillé les richesses de la RDC et a détruit même les biens que possédait la RDC. Nous sommes en 2005, mais plusieurs années après, finalement, il y a eu silence jusqu'à ce que la Cour a pris la décision de fixer un montant forfaitaire de 325 millions. Les professeurs évoquaient tout à l'heure un montant qui est parti de 23 milliards pour qu'on arrive à 325 millions. Alors comment réagissez-vous par rapport à cette minoration? Ou si vous voulez, comment on a pu minorer ces chiffres? Est-ce que vous êtes satisfait, vous? Et qui doit servir cet argent aujourd'hui? Et si jamais l'Ouganda ne payait pas?
Pour ceux qui ont suivi ce dossier, on sait qu'à un moment donné, la RDC a joué à la légèreté. Puisque lorsqu'un dossier est en justice, l'élément le plus important, c'est la preuve. Il faut apporter des preuves pour finalement avoir gain de cause. Je me souviens à l'époque, le professeur Nyabirungu, qui suivait ces dossiers, et se plaignait toujours du fait que la RDC ne mettait pas assez de moyens pour réclamer tout ce que l'Ouganda avait fait. Mais n'oubliez pas aussi, il y a des dossiers pour lesquels ça dépend aussi de la volonté des États à pouvoir harmoniser les différents qui peuvent exister. Ce qui est très grave, c'est que de tous les temps que nous étions en justice avec l'Ouganda sur ces dossiers, le gouvernement congolais n'a pas pu apporter toutes les grandes preuves. Ça veut dire que l'évaluation des dégâts commis par l'Ouganda chez nous n'a pas été faite d'une manière assez responsable. Et vous savez que lorsqu'il n'y a pas assez de preuves, c'est pratiquement à la partie adverse que des fois on donne les gains. C'est le cas aujourd'hui. Vous savez, moi, j'ai été déçu quand j'ai analysé l'écart de ce que on a fait aujourd'hui. Vous venez de le dire, j'ai le rapport devant moi depuis que l'arrêt a été sorti. Donc, j'ai lu les faits tels que ça a été exposé. Mais écoutez, c'est sur base de quoi que ces montants étaient fixés. Et ce qui est drôle, l'Ouganda réagit directement pour dire qu'il ne paiera pas cet argent, que c'est très élevé. Donc, c'est aussi de la responsabilité.
Malgré
de
ces 325 Congolais, millions,
lorsque
l'Ouganda dit que c'est très élevé, il ne paiera pas.
Voilà. Alors, je disais que la responsabilité nous appartient, nous, Congolais. Lorsque un pays vient détruire, mais est-ce que nous étions d'accord que nous devions faire un travail d'archiver sur tous ces dégâts commis par l'Ouganda? Et là, c'est la responsabilité même de la société civile.
Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain. On va prendre Dieudonné. Dieudonné, je crois que la ligne s'est améliorée. Dieudonné, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous,
monsieur. Vous êtes à Kisangani. Je me pose la question. Vous y habitez depuis longtemps. À quel âge disons, en ce moment-là, alors, quand il y avait la guerre, vous aviez quel âge?
Bon, mais déjà, quand il y avait la guerre des six jours ici à Kisangani, je me rappelle, j'étais encore cadet. C'est-à-dire, j'étais à l'âge des 5 ou 6 ans parce que mon petit frère était venu un peu tard, je peux dire. Je ne sais pas, vous me suivez.
On vous suit très bien. Vous aviez 5 ou 6 ans. Ben, alors, quelques années plus tard, quand on condamne l'Ouganda, on a déjà condamné l'Ouganda en 2005, et aujourd'hui, l'Ouganda doit payer 325 millions. Qu'est-ce que cela vous fait?
Bon, je dirais, c'est un sentiment de regret. Toutes les crimes causés par l'Ouganda, et voir que le montant ou les verdicts qui viennent tomber par la CIJ, c'est vraiment regrettable. Je ne sais pas c'est par quel moyen la
CIJ ont pu évaluer à 325
millions. D'abord les victimes, ou si cela a été fait, je ne sais pas cela a été fait comment, et je ne sais pas si ces victimes seront vraiment
indemnisé. Merci beaucoup Dieudonné. 081-893-63-30 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité d'interagir avec nous sur www.radiocapi.net.
Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
On n'a pas de travail.
Le intouchable, dans ce pays, n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi si vous nous rejoignez. Bienvenue dans Parole aux auditeurs qui parlent de la justice internationale. Vous le savez, la Cour internationale de justice a, la semaine dernière, fixé à 325 millions de dollars la réparation à la RDC par l'Ouganda au titre de l'invasion de l'Est lors de la guerre de 1998 à 2003. Selon plusieurs observateurs, le chiffre de 11 milliards avancés avant a été sensiblement minoré. Alors comment est-ce qu'on est en est arrivé là? Que va-t-il arriver si l'Ouganda refuse de payer? Et selon vous, quelles doivent être les mesures des coercitions? Alors vous êtes avec nous, professeur, dans ce studio, professeur Chibangu Kalala, analyste et acteur politique, vous venez de suivre les auditeurs. Il y a Jérémy qui dit que l'RDC a encore la possibilité d'aller à l'appel, Christian qui parle d'activer la diplomatie, et Sylvain qui manifeste un regret, comme Dieudonné qui avait 5 ans à cette époque-là, qui regrette que le montant soit réellement un montant forfaitaire. Quelle est votre réaction?
Oui, merci. Je vais dire à Jérémy. Monsieur Jérémy, vous avez raison. Vous êtes en colère. Peut-être que moi, je suis plus en colère parce que j'ai plaidé dans cette affaire. Malheureusement, il n'y a pas d'appel. L'arrêt rendu par la Cour est un arrêt définitif. Il n'y a pas de recours contre les arrêts. On ne peut rien faire. J'en finis. Mais je comprends le souci des intervenants. On ne va pas refaire le passé. Je vous ai dit que l'ancien régime, le régime PPRD, assume la totale responsabilité de cet échec. Sur le plan politique, diplomatique et technique, l'ancien régime a mal géré le dossier. Il est responsable de ce qui est arrivé. Il n'a pas eu la volonté politique de bien faire les choses.
Est-ce que l'ancien régime ne protégeait-il pas de relations privilégiées qu'il y avait entre l'RDC et l'Ouganda, par exemple?
Je n'ai pas de preuves, mais c'est une question que le Congrès peut se poser. On ne peut pas négocier pendant 10 ans pour la fixation de montants. C'était non-sens. Quand j'avais les dossiers à l'époque, j'avais expliqué au ministre en disant qu'on ne se mettra jamais, jamais d'accord avec l'Ouganda autour de la table sur un montant que l'Ouganda va payer. Même si, prenons, qu'on arrive à cette hypothèse-là où on signe, trouvez-moi, quel moyen de pression nous aurons sur l'Ouganda pour forcer l'Ouganda à payer? Donc c'est une mauvaise solution.
On vous a reproché de la détention illégale des preuves. C'est ce qui a empêché à l'RDC d'entrer dans ses droits.
Mais j'étais dans une affaire.
Parce qu'en 2015-2016, si ma mémoire est très bonne, vous étiez même en prison à cause de ça.
Mais ça fait partie des fautes politiques commises par l'ancien régime dans cette affaire. Vous comprenez? Je me trouvais dans une affaire de mafieux, finalement. C'est lui qui a les dossiers, qui a les preuves, on l'arrête, on le met en prison. Mais alors, comment vous allez travailler? Ils vont à la cour pour relancer l'affaire, mais sans preuve. Mais il faut commencer par là. Il fallait d'abord construire, revoir ce qu'on avait déjà fait, maîtriser bien le dossier, avoir des preuves, construire, mettre les moyens pour reconstituer encore les preuves, les affiner davantage. Ça n'a pas été fait. C'était de l'aventure. Le dossier a été tout simplement vampirisé par un groupe d'affairistes politiques, attirés par l'horreur de l'argent. Et les conséquences
sont
là aujourd'hui.
Mais je ne peux pas révéler les chiffres.
Mais je vais revenir.
Mais en 2003, vous étiez dans le procès.
Oui.
Vous êtes parti à la cour. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez regagner Kinshasa à ce temps-là?
Oui, mais à l'époque...
Il n'y a pas eu plaidoirie.
Vous me rappelez de très mauvais souvenirs dans cette affaire ici.
Peut-être ma mémoire, je me suis trompé, mais en 2003, je sais que avant qu'on puisse condamner l'Ouganda, en 2003, c'était le premier raté.
Oui, mais nous étions déjà à La Haye. À 3 jours, on devait commencer à plaider l'affaire. Tout était fait, d'accord. Mais nous avons reçu une décision du gouvernement qui dit, vous ne plaidez pas, vous rentrez à Kinshasa. Donc vous avez un demandeur qui doit être pressé pour qu'on tranche quelque chose. Le demandeur qui refuse de plaider qui dit, arrêtez, rentrez à Kinshasa. Écoutez, c'est une catastrophe. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici au micro. Mais toujours est-il, on est arrivé. À l'époque, on avait conseillé le gouvernement. Je dis, ce qu'il faut faire, même s'il faut négocier avec l'Ouganda, mais il faut négocier avec l'Ouganda sur une position de force. Il faut gagner le procès. Et nous avons des moyens maintenant pour gagner le procès. Quand il y aura l'arrêt, vous allez négocier avec l'Ouganda sur les modalités d'exécution de l'arrêt. Mais vous ne pouvez pas chercher à négocier avec l'Ouganda sans avoir établi la responsabilité, ou si vous voulez, pour prendre un terme qui relève du droit pénal, la culpabilité de l'Ouganda. Il faut d'arriver à arriver à cela. Bon, on l'a obtenu cela en 2005. Et après, c'était des pesanteurs, des lourdeurs. On voyait bien qu'il n'y avait pas la volonté d'aller. Alors que, et à tout moment, la Cour écrivait, quand j'étais encore dans le dossier, pour dire, mais où est-ce que vous en êtes avec les négociations? Cette affaire traîne à la Cour depuis 99. Mais des années et des années.
Semble-t-il qu'il y a eu jeu de ping-pong. La RDC demandait à chaque fois le report de plaidoirie et pour que la Cour leur accorde 12 mois. Et l'Ouganda répliquait après avoir présenté la réplique qu'on leur accorde également 12 mois.
Mais on voyait que la RDC...
Et nous sommes allés à 4 ans comme ça,
mais
de perdu.
On voit bien que la RDC fouillait le dossier, fouillait le procès. Vous imaginez, vous êtes demandeur, la loi dit que vous devez agir dans 4 mois, vous venez demander, non, il faut me donner 12 mois. Et ça, c'est le demandeur. C'est quel genre de demandeur, ça? Écoutez, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici au micro. En fait, comme je l'ai dit, l'ancien régime est totalement responsable de ce qui est arrivé. Mais on ne va pas refaire le passé. La Cour nous a donné, ce que nous a donné, sur quelle base? C'est une base forfaitaire.
Forfaitaire.
Mais c'est clair dans... allez lire le paragraphe 106 et c'est la clé la plus importante pour comprendre les choses. Sur les 325 millions pour les auditeurs de Radio Capitale,
déjà annoncé qu'il ne payera pas
c'est
exorbitant.
Pour les mes amis au Capi, 325 millions, c'est réparti. Il y a 225 millions pour les morts. Que tu avais enregistré
les
ceux qui étaient blessés, ceux qui étaient torturés, les femmes violées. La Cour a dit, je donne un montant global, somme globale. Mm-hmm. Mais c'est pour ne pas dire forfaitaire. Mm-hmm. C'est montant forfaitaire.
225 millions pour les morts.
Ceux qui étaient blessés, tout ce qui était torturé, tout ce que, bien, les femmes qui étaient violées, tout ça, vous avez 225 millions. Mm-hmm. C'est une somme globale. C'est vrai qu'on avait invoqué le pomme de Dieu, mais il n'y a pas de preuves. Il dit, mais les preuves ne sont pas solides. Bon, on n'a pas montré combien c'était mort. On parle de 3 500 000 morts, directs et indirects, etc. La Cour en parle, dit, mais ce n'est pas fondé, ce n'est pas sérieux. Mais quand même, j'avais déjà dit en 2005 que l'Ouganda a tué, l'a torturé, etc. Il faut payer quelque chose. Et donc, il faut que l'Ouganda paye quelque chose. Globalement, 225. Deuxième point, pour les biens, les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics, etc., ou privés, c'est 40 millions. La Cour dit, bon, il n'y a pas de preuves qu'on avait détruit, mais tout de même, j'avais déjà dit que l'Ouganda avait détruit des biens publics ou des biens privés des Congolais. Bon, ça, je donne 40 millions. Ça, c'est dans les 325. 40 millions pour la destruction des biens.
40 millions.
40 millions. Troisième rubrique, exploitation illicite. Quelqu'un a parlé encore du bois, du café, de c'était coltan, de l'or ou de diamants, etc.
Pour le pillage.
Quand les gens se battaient à Kisangani, les Rwandais ou Ougandais se battaient, quoi, c'était pour le contrôle de comptoirs comptoir d'achat de diamants et d'or. C'était ça, l'enjeu de combat de Kisangani. Le contrôle de richesse. Et là, la Cour dit, je donne encore un montant forfaitaire. 60 millions. C'est bien dans l'arrêt. Bon. J'ai lu l'arrêt pour mes amis au Capi qui n'ont pas l'occasion de lire l'arrêt. Donc voilà comment c'est réparti. Voilà, tenu compte de cela. Mais comment la Cour a fait ça? Je vous ai dit, je répète, la Cour l'a fait sur une base forfaitaire en prenant un principe d'équité. Les preuves qui étaient là n'étaient pas solides.
Mais il faudrait quand même donc, souligner...
Il y avait quand même quelques éléments. Un expert, l'expert qui était chargé de pillage, des richesses, etc., a fait un rapport très bien que j'ai lu. J'ai lu. Et la Cour a quand même...
Donc vous avez apprécié le rapport de l'expert.
Les experts, oui, c'était bien fait. Bon, c'est un bon expert. Et même la Cour l'a apprécié.
Donc 225 millions pour les morts.
225 millions pour tous ceux qui étaient torturés, violation des droits de l'homme.
Va-t-on indemniser les familles qui sont restées?
Mais maintenant, ça c'est une autre brique. Si l'Ouganda refuse de payer.
C'est Sylvain qui a évoqué ça, qui dit que, selon lui, il a déjà entendu qu'il a...
Je ne sais rien.
L'Ouganda s'est déjà prononcé.
La réponse est dans la Charte des Nations Unies. L'Ouganda, c'est un État membre des Nations Unies. Qui doit respecter
l'article 94.1.
L'article 93 très clair. C'est le Conseil de sécurité qui est l'huissier chargé de l'exécution des décisions prises par la Cour. Je vous ai dit que la Cour, c'est l'ONU. Bon. Donc, dans l'hypothèse extrême, prenons cela, l'Ouganda refuse, ça c'est le gouvernement congolais, j'espère que ça sera le gouvernement de l'Union sacrée qui va agir, et donc pour demander au Conseil de sécurité d'intervenir pour contraindre l'Ouganda à payer. Je donne un exemple, le Nigeria, dans l'affaire de la presqu'île de Bakassi contre le Cameroun, on avait condamné le Nigeria pour évacuer le territoire de Bakassi. Eh bien, mais le président Obasanjo a fait le gros dos, hein, disant oui, moi je ne pars pas, c'était mauvais arrêt, je n'accepte pas, etc. Mais il s'est fait taper sur les doigts par le secrétaire général des Nations Unies. Et finalement, Obasanjo a demandé à l'armée nigériane de quitter le territoire de Bakassi parce que la Cour a dit que ce n'est pas votre territoire, c'est le territoire camerounais. Et donc, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que nous avions souhaité. Nous voulions qu'il y ait un arrêt de la Cour qui fixe les montants. Et en ce moment-là, nous avons un huissier international, donc le Conseil de sécurité, que nous pouvons appeler pour demander à l'Ouganda, monsieur, vous devez exécuter l'arrêt de la Cour.
Donc l'Ouganda n'a pas de marge de manœuvre.
Il peut voilà. crier alors, pour des raisons politiques.
On va passer de l'autre côté des standards. Amos nous a rejoint. Amos, vous êtes avec nous? Voilà. Alors Jean-Claude, je crois, va nous aider avec Amos. Ah, est-ce qu'Amos est en ligne? Allô, Amos? Amos, vous êtes avec nous? Voilà, je crois qu'on a des petits soucis avec la ligne d'Amos. On va prendre l'autre qui est en ligne, Jérémy. Allô? Allez, Belodjoa? Allez?
Allô?
Allô, Belodjoa, bonjour.
Oui, bonjour à tous, Capi, bonjour à tout le monde.
Alors, quelle est votre réaction après avoir suivi l'actualité avec la décision de la Cour internationale de justice qui demande à l'Ouganda de payer 325 millions à la RDC?
Bon, premièrement, je tiens à féliciter ou sinon à encourager tous ceux qui ont porté le dossier au niveau de la justice internationale. On a besoin de rappeler que l'Ouganda et le Rwanda se sont battus chez nous. Ils ont causé désolation et il fallait que la justice se prononce. Bien que je ne suis pas d'accord totalement sur le montant, mais ce qui est vrai, il y a eu quand même un jugement et on a établi les responsabilités. Par rapport au montant, c'est tout de même surprenant de voir que lorsque nous nous attendions de parler en termes de milliards, on nous ramène à 325 millions de dollars. Ce qui sous-entend que le dossier n'a pas été bien accompagné par ceux qui sont au pouvoir. Ils ont failli parce que, à l'époque où on parlait de 10 milliards, 11 milliards, la population avait pris une sorte d'espoir. Parce qu'il y a beaucoup de stigmates. Il y a des gens qui attendent à ce que, qu'il y ait effectivement, solution à ce niveau. Du fort, malheureusement, nous constatons que le gouvernement s'est, abdiqué à sa responsabilité. Et déjà, il y a eu plusieurs déclarations qui ont été faites dans ce sens. On a vu que les gens n'ont pas bien fait leur travail et aujourd'hui la population n'a plus rien à espérer. Et pourtant le souci devait être celui d'accompagner la population pour qu'il y ait effectivement réparation, pour qu'on arrive, n'est-ce pas, à faire en sorte que, qu'il y ait réparation au niveau de la société parce qu'il y a eu de morts, il y a eu des choses qui ont été détruites. Et fort malheureusement, lorsque la Cour s'est prononcée, cela n'a pas résolu de manière substantielle le problème. Et d'ailleurs, le montant qui sera versé ne sera pas versé du coup. Ça va se faire de manière échelonnée. Ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, la justice n'a pas dit que le droit. Il y a eu des arrangements diplomatiques. Cela n'a pas été en faveur de la population. Et cela risque aussi, n'est-ce pas, de favoriser à ce que les autres commettent les mêmes bévues, tout en sachant que le montant ne va pas dépasser tout ce que nous avons. Une autre inquiétude, c'est par rapport au mécanisme de financement. Apparemment, au regard de ce qu'il y a sur le terrain, c'est comme si l'argent sera défalqué du fait que l'Ouganda aujourd'hui mène des opérations. S'il y aura une facture à payer, nous craignons que cette facture soit payée par le montant qui est déjà connu. Et de ce fait, la population ne va pas se retrouver. Pourquoi le gouvernement peut-il être en faveur de l'Ouganda au lieu de défendre les intérêts de sa population? Donc, nous déplorons le fait que le gouvernement ait été défaillant et nous souhaitons assez que la justice, la vraie justice, soit dite.
Voilà, merci beaucoup. Alors, réaction, professeur.
Oui.
Je comprends. Parce que la crainte aujourd'hui, c'est... Nous sommes... L'Ouganda est à... dans une opération de mutualisation des forces pour oui. traquer les groupes armés, les ADF notamment. Alors, ben, s'il arrivait que l'Ouganda présentait une facture qui est plus que 925 millions.
Bon, soyons pragmatiques.
Donc c'est l'RDC qui doit mener à, la, voilà. à l'Ouganda.
Soyons pragmatiques. Bon. Une page est tournée. Contentons-nous de ce que la Cour nous a donné. Mm-hmm. Pour faire autrement. Mais comment on va voir ça? Ce qui est prévu par la Cour, c'est ce que nous avions demandé. On a conseillé ça depuis 2000, depuis le début du procès, jusqu'à mm-hmm. la fin. L'argent est là. L'Ouganda payera. Ça, il n'y a pas de doute. On lui a donné un délai de 5 ans. Bon, de, chaque année, on va payer, parce qu'il faut inscrire ça dans le budget national. Mmh. Mmh. Donner 5 ans, ce sont des facilités de paiement. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Mais, cette question sera traitée dans le cadre de relations bilatérales, d'État à État. Nous avons une grande commission mixte mmh. entre les deux pays, où on traite tous les problèmes. Donc, j'espère qu'à la prochaine réunion, le gouvernement mettra à l'ordre du jour, parce que le gouvernement, pour dire bon, exécution de l'arrêt. Mmh. Ça va se discuter entre les deux gouvernements, donc cette mission, pour trouver des solutions. Ça sera payé. Faut pas, mmh. pas, je n'ai pas de doute pour cela. Les déclarations officielles publiques des Ougandais là-bas, c'est peut-être pour la consommation intérieure, mmh. pour mmh. calmer leur opinion. Mmh. Mais c'est une dette internationalement reconnue, fixée par l'ONU, qui demande qu'on paye, eh bien, l'Ouganda payera. Il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, le président de la République, heureusement, a fait des choix géopolitiques, géostratégiques, et même géoéconomiques remarquables.
Nous à avons, l'Ouganda,
nous avons des très bonnes relations de travail aujourd'hui, grâce à la nouvelle politique du président de la République, avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec tous les pays voisins. Les deux, le président se parle. Nous signons des accords de sécurité. Nous signons des accords...
Avec des projets intégrateurs,
voilà. il y a plein. Il y a deux jours, il y a 48 heures, le président de la République avec son homologue ougandais était ensemble. Ils discutent. Donc, on va traiter les questions dans des cadres de relations amicales, heureusement, avec cette politique. Donc, ça va aller. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ils se disent, oui, mais l'Ouganda, nous sommes sur le terrain. Mais vous savez, ce qui pose le problème, Jalou Gembo. Là, il y a quelques semaines, nous lisons dans les médias, moi j'ai entendu cela, je lis cela. Quand la deuxième colonne de l'armée ougandaise est entrée par Beni en passant par Kassindi, arrivée,
la population
acclame les soldats ougandais. Trouve que ce sont des gens qui viennent pour nous aider à régler le problème de banditisme, des tueries, etc. Au moment où nous sommes en train de faire cette émission. Mais notre armée, nos vaillants soldats...
Oui, mais la population accepte, semble-t-il, que le Parlement ougandais n'a pas donné son cutus au président de la République,
non, mais président de l'Ouganda. Ça, c'est des problèmes internes entre eux, ça nous intéresse
pas. Est-ce que ça risque pas d'être une affaire personnelle du président de l'Ouganda, qui réclamerait, bien entendu, la facture dans les jours à venir? C'est pas un piège d'être vraiment en relation?
Non, pas du tout. Au moment où nous faisons cette émission...
Parce que, en quoi vos propos, le régime passé a protégé l'Ouganda dans cette affaire, et l'Union Sacrée vient de s'inviter dans cette affaire, ça risque d'être vraiment du surplace, quoi.
Non, c'est ce que je veux dire. Au moment où nous tenons cette émission, nos soldats et les soldats ougandais viennent d'entrer dans l'Ituri. Mm-hmm. L'Ituri, c'est dans le territoire du Rumu. Mm-hmm. Bon, parce que vous savez, là-bas, vous avez sur le lac Albert, vous avez Mahagi au nord, Djougou au milieu et Irumu au sud. Irumu qui est voisin de Beni. Les soldats sont de là-bas, accueillis, applaudi par la population locale, qui trouve que c'est une bonne chose, cette intervention. Donc, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que le contexte politique est différent dans le cadre de nos relations. Mmh. Le président de la République travaille bien avec son homologue ougandais. Au niveau du sommet des chefs d'État, ils vont trouver une solution par rapport à ça. Ce problème de paiement, ce problème d'argent. Nous avons beaucoup de choses à faire dans cette région-là. En Ouganda, ils vont bientôt commencer à exploiter le pétrole. Mmh. Mais il y a beaucoup plus de pétrole du côté congolais que du côté ougandais. Mmh. Avec la cuvette longitudinale, mmh. qui est là, le graben, qui s'incline. Il y a une forte inclination du côté. Mais tout le pétrole est de notre côté. Et donc, il faut pacifier cette région-là. Djougou, Mahagi, Djougou, Irumu, etc. Pour qu'on puisse demain
commencé à lancer des appels d'offres pour vendre les blocs pétroliers pour commander de l'argent. Et ça, et l'Ouganda a du pétrole de l'autre côté, donc sur l'autre rive du Lac-Albert. Donc il faut créer une zone de coprospérité. C'est ça l'avenir. On ne va pas commencer à consulter. Et c'est très bien ce que le président de la République a fait. Pour ça va produire des résultats, moi je suis convaincu. Mais la question de l'argent, pour ceux qui s'inquiètent, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans de bonnes conditions pour que l'Ouganda nous paye cet argent. Et l'Ouganda va payer. Je ne rentre pas dans un dossier que je ne connais pas. De savoir est-ce que les mutilations de force, qui paye la facture, qui ne paye pas la facture, est-ce que l'Ouganda prend en charge ses propres soldats, est-ce que l'Ouganda...
Mais la crainte des auditeurs est tout de même justifiée.
Mais ce n'est pas un problème. Ça, c'est des engagements d'État à État. Je n'en sais rien. Je ne peux pas répondre à cette question. Si ça arrivait que l'Ouganda présente une facture pour ses évacuations, il voudrait que le gouvernement congolais prenne une partie des frais ou des dépenses. Si le gouvernement accepte, ok. Si le gouvernement refuse, mais ça va se traiter entre pays voisins, frères et amis, qui sont appelés à coopérer, à vivre ensemble, à créer une zone de coprospérité dans cette région, on trouvera des solutions.
Voilà, donc on retient que si les montants étaient minorés, oui. C'est la responsabilité de la RDC, oui. Qui renvoyait à chaque fois les plaidoiries, et l'arrêt de la Cour le tout dernier, une faute de preuves, faute de base factuelle, oui. Disons en rapport avec le préjudice, oui. Ils ont fixé un montant forfaitaire.
Exactement.
Donc on n'a pas à s'inquiéter. Oui. Les montants sont déjà répartis. 225 millions pour les morts, oui. 40 millions pour la destruction des biens, oui. Et 60 millions pour les pillages.
Pour les pillages, richesses, ça c'est pour l'État congolais. J'aimerais dire un mot pour les victimes. Comment on va utiliser cet argent? Je lance des idées. Oh, pas des idées, ce sont les idées. Il faut, s'il y a des victimes qui sont encore là, bien identifiées, parce qu'il ne faut pas faire un appel d'air. Il ne faut pas faire un appel d'air. Dire oui, les victimes
les venaient, seront gonflées, mais vous aurez des millions de Jacques Vauchard. On mettra même des victimes sur la liste des victimes. Et il y a d'autres familles qui ne sont même pas concernées, oui, qui vont se retrouver.
Et il faut être très prudent de ce côté-là, pour voir quel état qu'on peut donner. On peut voir. Mais le gros, à mon avis, il faut voir la possibilité d'affecter cet argent, pas de mettre dans le bureau général de l'État pour les dépenses, commencer à payer les fonctionnaires, les dépenses générales. Il faut faire un fonds spécial d'affectation avec ce fonds-là. Nos militaires ont payé un lourd tribut. Sont morts. 2000 soldats ont été tués sur la rivière Oubangui. J'ai plaidé ça. Je parle devant la Cour. Mais la Cour, faute de preuves, a dit qu'il n'y a pas de preuves. Et donc, il faut, avec cet argent, construire des camps militaires, construire des hôpitaux militaires, construire des écoles pour les enfants militaires. Il faut que nos soldats se retrouvent dans ce fonds, construire de nouveaux camps militaires modernes, réhabiliter les camps qui existent, construire des hôpitaux, etc. Il faut que nos militaires se retrouvent dans ce fonds. Et au même bâtiment, on construit, oui, ce bâtiment, ce camp militaire a été construit avec l'argent issu du procès Ouganda. Il faut arriver à Kisangani, construire un bel hôpital dans la ville de Kisangani, bien équipé, aux normes modernes, pour dire cet hôpital, c'est avec le fonds issu des choses. Réhabiliter des écoles, dire que ça vient, c'est fait avec l'argent. Prendre l'université de Kisangani ou Yangambi, construire
des conditions,
équiper des laboratoires, etc. Oui, ça a été financé avec l'argent. Comme ça, nous avons des souvenirs historiques. Il faut faire un grand monument pour les victimes de choses à financer, une grande place, etc. Il faut des équipements collectifs qui vont servir à toute la population. L'Ituri a beaucoup souffert. Il faut voir ce qu'on peut faire aussi à Bounia, par exemple, dans le cadre. Il faut des équipements collectifs qui sont financés. Plutôt que d'aller distribuer les gens l'argent, on pourra dépenser un petit peu. Mais voilà. Il faut affecter cet argent.
Il y a beaucoup à dire, professeur. En tout cas,
merci. Il faut construire des ponts.
Merci beaucoup de nous avoir rattrapé.
Ce pont est construit avec le fonds.
Avec le fonds.
Donc, il faut faire des choses comme ça, plutôt que de chercher à
dispatcher
l'argent. Oui, donner. On ne va pas terminer la mission.
Voilà, on ne saura pas aller plus loin avec vous, professeur Tshibankalala. Je rappelle que vous êtes professeur ordinaire à l'UNIKIN et dans d'autres universités de la RDC. Vous êtes analyste et acteur politique. Merci de nous avoir retracé l'historique de cette affaire et aussi de nous avoir relevé la négligence ou encore la responsabilité du gouvernement congolais dans la gestion de cette affaire qui nous a amené à la minoration de ces montants qui est parti de 23,11 milliards et à 325 millions aujourd'hui.
pays pour l'indemnité et vous avez fait des propositions pour au fait l'utilisation de ces montants. Merci une fois encore de la disponibilité, hein, malgré que vous avez des petits soucis au niveau de votre jambe. Vous avez fait les déplacements des studios. En tout cas, ça sera toujours avec plaisir de vous retrouver dans un autre débat des paroles aux auditeurs.
C'est à moi. Je vous remercie.
Merci beaucoup à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission et merci également à tous les auditeurs qui ont participé à ces débats. On se retrouve demain dans un autre numéro des paroles aux auditeurs.